Chapitre 16. Si les avoués avaient diligenté pour obtenir un jugement rapide, le tribunal ne les avait pas suivis. Il y avait eu des remises successives. Un juge avait été obligé de faire un voyage sur les bords de la Méditerranée pour sa femme. Le président avait dû garder la chambre pour sa grippe. Et après avoir attendu que le juge fût revenu, il fallait maintenant attendre que le président eût recouvré tous ses moyens vocaux, car il était fort vaniteux, le président, infatué jusqu'au ridicule des avantages qu'il s'attribuait, et il n'eût jamais consenti à parler du nez en public. Belloc, qui recevait la visite du doyen tous les 3 ou 4 jours, faisait maintenant chaque matin avant de se lever sa prière. On ne peut pas savoir, n'est-ce pas? Et parmi les grâces qu'il demandait au bon Dieu, le rétablissement de sa santé, la conservation de sa fortune, la ruine, le déshonneur, la mort de ses ennemis, il y en avait une sur laquelle il insistait tout particulièrement et qui était de ne pas le mettre en colère. Un autre eût sans doute dit « ce », mais lui disait « le ». Cependant, malgré cette prière, il ne pouvait pas s'empêcher de s'emporter et de jurer à perdre haleine quand M. Pain lui écrivait que le jugement était remis à huitaine ou à quinzaine. Est-ce que les juges se fichaient de lui? N'étaient-ils pas payés pour juger? Alors, il devenait révolutionnaire et lui, qui trouvait maintenant que l'élection des maires était une duperie, il déclarait hautement au doyen que si les juges étaient soumis à l'élection, il ne commettrait pas toutes ces infamies. Il en avait besoin de cet enfant, et tout de suite. C'était pour cela qu'il avait reconnu, pour le soigner, pour lui rendre toutes sortes de services, pour empêcher ses commis d'exploiter la situation, ce qu'il faisait impudemment les canailles, Victor tout le premier, et plus encore que les autres. Si Marichette ne s'emportait pas et ne jurait pas en apprenant ses remises, elle n'en était pas moins désespérée. Que répondre à Pierre quand il lui demandait tous les jeudis « Est-ce cette semaine que tu viendras me chercher ?» Il s'était révolté à la fin du martyre que ses camarades lui infligeaient. Il y avait eu des batailles. Un jeudi, elle l'avait trouvé déchiré, dépenaillé. Un autre, le visage meurtri et noirci, et les mères sont terriblement sensibles aux coups que reçoivent leurs enfants. Mais il n'y avait pas que ses querelles et ses coups qui l'enfiévraient. Il y avait aussi les leçons que continuait Belloc. Si on ne lui tuait pas son fils, ne le lui perdrait-on pas? Que serait-il quand on le lui rendrait? Elle s'imaginait qu'il avait pâli et maigri. Il lui semblait qu'il commençait à marquer moins d'aversion pour son père. Sans doute, l'espérance de la vengeance par l'argent le gagnait, comme pouvaient le gagner aussi les promesses de chevaux, de voitures, de tout ce qu'on faisait miroiter à ses yeux. Que n'allaient pas produire ces tentations sur cette nature si facilement impressionnable? Quand il serait revenu près d'elle, car malgré tout, elle ne pouvait pas croire qu'il ne lui serait pas rendu, ne regretterait-il pas cette fortune qu'on lui avait mise dans la main? Plus tard, n'accuserait-il pas celle qui la lui avait fait perdre? S'il l'aimait moins? Cette pensée la rendait lâche, et il y avait des heures d'angoisse et de doute où elle se demandait si ce n'était pas à tort qu'elle soutenait ce procès. Cela lui arrivait surtout quand on lui avait parlé de Pierre et quand, sans la blâmer ouvertement, on lui avait laissé entendre que c'était une grave responsabilité qu'elle avait prise d'engager ce procès. Car enfin, c'est la fortune de M. Belloc aîné qui est en jeu, et elle est considérable. Je sais bien, vous craignez les leçons et les exemples de Simon Belloc, et le fait est que c'est un homme terrible. Mais enfin, vous seriez là, et puis Pierre est si doux, si docile, c'est une si bonne nature. Quand c'était des gens nuls qui lui tenaient ce langage, elle n'en était pas trop affectée. Mais, au contraire, quand c'en était qui lui inspiraient confiance par leur caractère, leur bon sens, leur intelligence, quand ils avaient une autorité à un titre quelconque, elle restait troublée et perplexe. « Vous voyez, disait Mademoiselle Julienne, qui malgré toutes les raisons qu'elle avait pour approuver Marichette, ne pouvait pas se décider à renoncer à la fortune de Belloc pour Pierre. Seule, Sélanie approuvait Marichette pleinement, et comme depuis que le procès était engagé, elle venait toutes les semaines à Berneval, c'était chaque fois des exhortations qui n'en finissaient pas. Ce n'était pas en son nom seul qu'elle parlait, c'était encore au nom du pays entier, disait-elle. Tu ne saurais croire, ma chère, combien ta fermeté te fait honneur. On t'estimait pour ta conduite depuis le crime dont tu as été victime. Maintenant, on t'admire. Il n'est personne qui ne fasse ton éloge. On m'arrête pour me parler de toi. Tout le monde rend justice à ton désintéressement et au sentiment qui t'a inspiré. C'est la plus dure condamnation qui puisse frapper le corsaire. Même pour une fortune, tu ne veux pas lui confier ton enfant. Cela l'achève. Il n'a plus qu'à crever, le misérable. » Marichette n'était pas assez naïve pour ne pas comprendre ce que dictaient ces paroles. Cependant, elle était presque heureuse de les entendre. Elle se les répétait, c'était une sorte de confirmation de ce qu'elle se disait tout bas. De même, elle était heureuse aussi d'entendre Célanie affirmer que le tribunal ne pouvait pas ne pas lui rendre Pierre. Et cependant, elle savait aussi dans quel sentiment cette affirmation prenait sa source, car Célanie ne cachait pas ses espérances. « Jamais le corsaire ne fera de testament. Nous nous partagerons sa fortune. Ce sera de toi que ton fils la tiendra un jour, ce qui vaut mieux que de la tenir de ce coquin. Aussi, le sacrifice que tu fais n'est-il pas aussi grand que bien des gens l'imaginent. Qu'importe que tu aies 2 millions au lieu d'en avoir 3. C'est déjà un beau rêve pour toi. Ce procès, Dieu merci, avance à la réalisation de ce moment, car Belloc ne décolère pas, ce qui est très mauvais et peut le tuer d'une heure à l'autre. » S'il importait peu que Marichette eût 2 ou 3 millions, il importait beaucoup que Célanie en eût 2 et non 1. C'était maintenant toute son espérance, et si après avoir poursuivi toute sa vie la fortune entière de Simon, elle s'était à la fin résignée à n'en recueillir que la moitié, au moins fallait-il cette moitié à ses convoitises et à sa vengeance. Le plan de vie nouvelle qu'elle avait bâti était établi sur ce chiffre, et c'était 100 000 francs de rente qu'il lui fallait, et pas un sou de moins. Seul, il pouvait la consoler d'un partage avec l'idiote. Elle n'avait jamais compté sur plus de 100 000 francs de rente, elle les avait, c'était bien. Elle devait se consoler que l'idiote les eût également, si exaspérant que cela fût. Un jour que Marichette travaillait seule dans le magasin, une vieille dame entra, qu'elle prit tout d'abord pour une cliente qu'elle n'avait jamais vue. Elle ne la reconnut que lorsque celle-ci lui tendit la main en souriant. « Madame Moreau !»« Comment, vous ne me reconnaissiez pas ?» Ce n'était pas seulement les 10 années écoulées qui empêchaient Marichette de la reconnaître. C'était aussi les changements qui s'étaient faits en elle, dans sa tenue et sa toilette, transformant la paysanne à bonnet en une dame à chapeau, bien simple le chapeau, plus que modeste, mais enfin chapeau cependant. « Vous, vous n'avez pas changé, » dit Madame Moreau en s'asseyant, « et ce que mon fils m'a raconté de votre jeunesse et de votre beauté n'est que l'exacte vérité. Il me semble, en vous retrouvant, que je viens de vous quitter, et pourtant plus de 10 années se sont écoulées. » Et elle raconta sa vie pendant ces 10 années, comment elle s'était expatriée pour suivre son fils, il avait tant de chagrin, comment elle l'avait partout accompagné dans des pays de sauvages, mais tous ces tracas étaient, Dieu merci, finis. Elle revenait dans son village natal pour ne plus le quitter, et, en attendant que la maison que lui construisait son fils fût achevée, elle s'était installée dans une maisonnette voisine, où elle comptait bien que Marichette viendrait la voir. « Je sais que vous avez de grands tourments à cause de ce procès, mais précisément, cela vous sera bon de vous distraire, comme il y a 10 ans, de déjeuner avec nous le dimanche. Venez dimanche prochain, vous passerez la journée avec Paulin, qui arrivera de Paris samedi soir, et ce sera comme il y a 10 ans. Nous déjeunerons tous les 3 et vous vous promènerez tous les 2. » Elle fit une pause pour mieux examiner Marichette. Elle la vit troublée. Alors, elle continua. Vous savez que je n'ai jamais eu en vue que le bonheur de mon fils et que j'ai toujours tout fait pour l'assurer. C'est de lui que je me préoccupe en vous parlant ainsi. Paulin n'a jamais cessé de penser à vous, mais depuis qu'il vous a revu, il y pense encore bien plus fort. Il ne me l'a pas dit, mais il n'y a pas besoin qu'il parle pour que je sache ce qui se passe en lui. Retrouvez-vous quelquefois ensemble et ce qui était autrefois en train pourrait bien reprendre, à ma plus grande joie, car ce serait, j'en suis sûr, pour votre bonheur à tous les deux. On ne peut pas vous blâmer pour l'accident qui vous est arrivé. Tout le monde sait la vérité et vous rend justice. l'enfant ne serait pas un empêchement, ce serait comme si vous étiez veuve. Si Paulin n'a pas la fortune que vous recueillerez bientôt, il est dans une bonne situation. Il a gagné gros. » Marichette resta assez longtemps sans répondre, et à sa pâleur, au frémissement de ses mains, Madame Moreau put lire son émotion. « Ce sera avec plaisir que j'irai vous voir, » dit-elle. « Mais ce ne sera pas dimanche, ni les jours où M. Paulin est près de vous, car nous ne devons pas nous retrouver ensemble, ni un de ces jours-là, ni jamais. Je ne suis plus ce que j'étais il y a 10 ans. J'ai un enfant, et je lui appartiens entièrement, jusqu'au sacrifice de mes sentiments et de ma vie. Toute mère est une honnête femme pour son fils, pour que je puisse en être une pour le mien, s'il est possible que cela soit. Il faut que je sois une sainte. »